Il est 18h sur France Culture, le journal. Présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, assure Édouard Philippe. Le Premier ministre a longuement détaillé la future réforme des retraites et annoncé des concessions dans l'espoir de rassurer les Français. Mais en évoquant un âge d'équilibre à 64 ans et un système de bonus-malus, il a fait l'unanimité syndicale contre lui. Dans ce journal, dossier signé Annabelle Grelier, analyse politique de Stéphane Robert. Vers de nouvelles élections législatives en Israël, ni Benjamin Netanyahou ni Benny Gantz n'ont réussi à former une coalition. L'échéance, c'est ce soir. Nous joindrons Frédéric Mettezo à Jérusalem. Nous irons aussi à Alger où des manifestants continuent de dénoncer le scrutin présidentiel organisé demain. Et puis en pleine COP25, la nouvelle présidente de la Commission européenne présente son pacte vert pour Ursula von der Leyen. L'Europe doit devenir le premier continent neutre en carbone d'ici le milieu du siècle. Le temps est bienvenu de construire un système universel de retraite, déclare Édouard Philippe. Dans un discours solennel devant le Conseil économique, social et environnemental, le Premier ministre a apporté des précisions sur le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Alors que la mobilisation contre la réforme en est à son 7e jour, Édouard Philippe a balayé bon nombre de critiques et affirmé que le futur système constituerait un progrès. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Vous avez suivi la déclaration d'Édouard Philippe à la mi-journée. Quelles sont les clarifications apportées par le Premier ministre ?
Oui, alors on attendait des détails et des précisions. Il y en a eu quelques-unes. À la question « Qui sera concerné par cette réforme ?», une date a été donnée, 2004. La nouvelle réforme s'appliquera à la génération 2004, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui 15 ans et qui en auront 18 en 2022. Une autre date importante, 1975. Pour ceux nés avant 1975, rien ne change. Et pour les autres, le Premier ministre promet une transition progressive. Pour la partie de carrière effectuée avant 2025, la retraite sera calculée sur les anciennes règles. Seules les années travaillées à partir de 2025 seront réglées par le service universel. Pour les régimes spéciaux, le Premier ministre s'est voulu ferme.
Nous mettrons fin aux régimes spéciaux, nous le ferons progressivement, sans brutalité, dans le respect des parcours individuels. Et je le dis, mesdames et messieurs, avec tranquillité, avec calme, avec détermination, le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève.
Alors progressivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Un âge aurait déjà été fixé pour la SNCF et la RATP. La réforme s'appliquerait à partir de la génération 1985.
Alors on attendait bien sûr d'autres précisions, Annabelle, notamment la valeur du point.
Oui, comment sera fixée la valeur du point ? Eh bien, Édouard Philippe a donné quelques garanties qui, dit-il, seront inscrites dans la loi.
Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette, au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. La loi ira même au-delà, puisqu'elle prévoira une indexation progressive, non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmentent plus vite que l'inflation.
Est-ce que l'âge de départ à la retraite sera modifié ?
Alors l'âge légal restera fixé à 62 ans, a affirmé le Premier ministre, mais la vérité est qu'il faudra travailler plus longtemps, a-t-il aussitôt précisé.
Nous ne pouvons pas mettre en place un âge d'équilibre à 64 ans, d'un coup d'un seul, en 2025. J'ai entendu les organisations syndicales qui ne voulaient pas de fétichisme sur la date de 2025, et j'ai accepté de prendre le temps nécessaire en décalant le calendrier initial jusqu'à 2027.
Voilà, donc vous entendez Édouard Philippe qui annonce donc un âge d'équilibre à 64 ans avec un système de bonus-malus qui devrait être instauré en 2027. Et voilà, c'est la déclaration qui a fait glisser tous les syndicats dans le camp des opposants, y compris la CFDT qui jusque-là était son seul soutien. Écoutez Laurent Berger.
Cette ligne rouge est franchie, elle est clairement franchie. Finalement, on sait qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans fixé d'ores et déjà par cette réforme. Je crois que cette réforme a été lestée par un angle budgétaire accru et donc on va essayer de la délester dans les semaines à venir.
Donc la CFDT qui réunit son bureau ce soir pour décider des suites à donner au mouvement, rentrera-t-il dans le grand mouvement de grève de mardi prochain ? C'est la question.
Annabelle Grelier. Dans son discours, Édouard Philippe s'est montré très peu disert sur les régimes spéciaux après ces annonces. Les syndicats de la SNCF, en première ligne dans la grève contre la réforme des retraites, ont appelé tous les salariés à renforcer la mobilisation. Pour les cheminots, la réforme doit s'appliquer à partir de la génération 1985, vous l'avez dit. Cela ne satisfait pas Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
Si on a bien compris, ou en faisant les calculs d'apothicaire des 17 ans en fonction de l'âge d'ouverture des droits, ça doit concerner 90 pour les agents de conduite, 1985 pour les autres cheminots. Donc ça devrait concerner 30 000 cheminots qui basculent dans le nouveau système. 30 000 sur 90 000 en 2025. Il n'est pas question qu'on sacrifie 30 000 de nos collègues à un basculement sur le régime universel. Nous avions proposé un droit d'option. C'est un régime du grand-père et sur la base du volontariat. D'ailleurs, le Premier ministre a même esquissé le fait que le système n'irait pas assez vite tellement le nouveau système serait bon. Eh bien, nous lui disons chiche, au lieu de basculer systématiquement, ne faisons basculer que les volontaires. En tout cas, pour nous, en l'état actuel des choses, et compte tenu de l'état actuel des négociations, parce qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour ces gens-là, il n'est pas question que nous soyons satisfaits de ce qui est proposé. Et en l'état actuel des choses, je ne me vois pas rentrer dans les dépôts et rentrer dans les chantiers en disant à ces 30 000 jeunes, eh bien la CFDT accepte les propositions du Premier ministre en l'état et nous levons le préavis, il n'en est pas question.
Didier Aubert de la CFDT Cheminots répondait à Stanislas Vazak. Demain, la direction de la SNCF prévoit la circulation d'un TGV sur 4, 4 TER sur 10, un Transilien sur 4, un Intercity sur 4 et un Ouigo sur 4. Le trafic international sera également perturbé. À la RATP, le RER A circulera à raison d'un train sur 2 et il y aura un RER B sur 3 en heure de pointe. Le mécontentement et la détermination restent entiers aussi chez les enseignants, d'après la FSU. Pourtant, Hakim Kasmi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a tenu à communiquer en tout début d'après-midi. Il a fait un point presse pour dire tout le bien qu'il pensait de cette réforme pour les Français comme pour les enseignants.
Oui, Aurélien, le ministre de l'Éducation a tenu à les rassurer en garantissant le même niveau des pensions actuelles pour les enseignants qui passeront au régime par points, soit ceux qui sont nés à partir de 1975. Pour y parvenir, il compte donc augmenter les salaires avec des primes. Jean-Michel Blanquer.
Aujourd'hui, s'il y a un retard des professeurs vis-à-vis des fonctionnaires comparables, c'est précisément parce que leurs primes sont inférieures. Et c'est cela qui aurait pu générer une injustice du point de vue des retraites. Et c'est donc cela que nous allons corriger. C'est des moyens importants qu'il faudra mobiliser et que nous aurons à programmer.
Parallèlement et indépendamment des retraites, le ministre de l'Éducation annonce aussi une augmentation générale des salaires pour tous les enseignants à partir de 2021. Elle concernera d'abord ceux qui sont en début de carrière. Autant d'annonces qui n'ont pas du tout rassuré les syndicats. La FSU appelle déjà un renforcement du mouvement et l'UNSA demande des réponses concrètes par la voix de son secrétaire général, Stéphane Crochet.
Il est urgent que l'on rentre dans des négociations concrètes, que l'on connaisse l'enveloppe budgétaire, que l'on connaisse le calendrier de montée en charge, que l'on connaisse les personnes qui sont concernées par ces mesures de revalorisation et qu'on connaisse aussi le cadre de ces discussions. Le Premier ministre a parlé de définir ou de redéfinir l'organisation du travail des enseignants. C'est sûr, il y a un vrai sujet. Tous nos collègues nous disent combien leur métier est devenu plus difficile. Mais est-ce bien à ça que le Premier ministre ou le ministre veulent s'attaquer?
Jean-Michel Blanquer recevra les syndicats à partir de vendredi. Les arbitrages seront rendus cet été, sans doute en juillet.
Hakim Kasmi, on l'aura donc bien compris, la fronde contre la réforme va se poursuivre. Alors je me tourne vers vous Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que le Premier ministre a pour autant raté sa prestation?
Alors, il y avait plusieurs destinataires du discours d'Édouard Philippe ce midi. Premièrement, les organisations syndicales qui attendaient des concessions. Le Premier ministre en a fait un certain nombre, mais ce n'est manifestement pas suffisant. Il a fait basculer, on l'a entendu avec Annabelle Grelier, tout le monde dans le camp des opposants, notamment la CFDT, seul syndicat à soutenir le principe de la réforme. Et donc, de ce côté-là, c'est raté. Édouard Philippe a manqué son objectif. Reste à savoir maintenant quels seront les effets de ce discours auprès des grévistes. On a connu avec la journée d'hier une baisse de la mobilisation. La tendance va-t-elle se poursuivre ou bien le front commun des syndicats est-il susceptible d'entraîner un regain de la contestation? On aura un premier élément de réponse à cette question demain avec une nouvelle journée de manifestation et puis surtout avec la nouvelle journée de mobilisation organisée à l'appel de l'intersyndicale mardi de la semaine prochaine. Enfin, le troisième destinataire du discours du Premier ministre, c'était l'opinion publique dont jusqu'ici une petite majorité soutenait la grève. On sait depuis le départ qu'elle est une des clés de l'issue de ce conflit. Est-ce qu'elle va faire confiance aux organisations syndicales qui affirment que le compte n'y est pas et du coup continuer à soutenir la contestation ou bien le soutien des Français va-t-il s'éroder? De ce côté-là, il n'y aura pas de réponse immédiate, mais les jours à venir, là encore, seront déterminants. En attendant, on peut dire qu'Édouard Philippe a manqué son coup et manqué sa cible vis-à-vis de la CFDT, qui est le syndicat qui donne le « là » dans ce conflit. On a pu voir que tous les autres syndicats réformistes s'alignent sur ce que dit Laurent Berger. Et ça, c'est un très mauvais signal pour Édouard Philippe et pour Emmanuel Macron, puisqu'ils n'ont plus comme soutien potentiel que l'opinion, ce qui s'avère être une assise extrêmement fragile.
Stéphane Robert. À la veille de l'élection présidentielle en Algérie, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans la capitale comme en province. Les contestataires rejettent le scrutin de demain et exigent le démantèlement total du système politique en place. Aujourd'hui, un dessinateur critique du régime a été condamné à 1 an de prison, dont 3 mois ferme, et la police a procédé à une 20aine d'arrestations à Alger. Mais cela ne dissuade pas tous les manifestants. Le reportage de Mathilde Dehimi dans la capitale.
Ils sont sortis une fois de plus, spontanément, pour exprimer leur refus du vote. Karima a un carton rouge à la main.
Nous sommes contre le vote dans ces conditions. Nous ne voulons plus de ce système qui nous prend pour des mineurs. On nous a brimés, on nous a supprimé toutes ces possibilités d'élire ce qu'on choisit.
Cela propose le même système. C'est le serpent qui renouvelle sa peau.
Istiklal, indépendance, Salmiya, pacifique, nos demandes sont légitimes, crie la foule. Yasmina, 18 ans, face aux principaux candidats septuagénaires.
Je ne peux pas en fait voter. On a vu ce que les 5 candidats... veulent en fait dire, mais je me sens pas en fait représentée.
Ce vote est un non-événement pour Abdelnour.
Les données sont biaisées. Tout le résultat qu'il va y avoir, c'est un résultat faux. Là, c'est pas une élection, c'est une nomination, madame. Nous sommes à 1 heure de la France, de l'Europe. Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux ? On cherche à être libre, simplement.
Va et vient avec les CRS. Depuis quelques mois, les contrôles sont renforcés, y compris pour les journalistes. Le peuple a le temps, dit Anouk.
Il y a beaucoup d'initiatives. On ira vers la transition qui dure 6 mois, 1 année. Le temps de préparer un environnement propre, une entente, des partis politiques, société civile, tout le monde contribue à la sortie de la crise.
Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures demain. La toute nouvelle autorité indépendante des élections assure qu'il n'y aura pas de fraude.
Mathilde Dehimi à Alger avec Arthur Gerbeau à la technique. En Israël, de nouvelles élections législatives devraient se tenir en mars prochain. Les députés israéliens en ont validé le principe aujourd'hui, car ni Benjamin Netanyahou, ni son rival Benny Gantz n'ont réussi à former de coalition gouvernementale. Ils n'ont plus que quelques heures pour le faire, ce qui semble assez improbable. L'échéance est à minuit. Pourtant, Frédéric Mettezo, il y a eu encore beaucoup d'agitation aujourd'hui en coulisses.
Oui, en effet, Benjamin Netanyahou n'a pas tweeté depuis près de 24 heures. C'est un long silence numérique pour lui. Mais en coulisses, toute la journée, il y a eu des messages, des échanges. Bleu-blanc, la formation centriste, demande par exemple à Netanyahou de renoncer à son immunité parlementaire. Le parti Netanyahou, lui, le Likoud, demande au rival Benny Gantz de mettre l'annexion de la vallée du Jourdain en Cisjordanie en tête de ses priorités. Et là, promis, il y aura une alliance. Mais jusqu'ici, personne n'a bougé. Et tout de même, la probabilité d'une troisième élection en 11 mois est la plus forte ce soir. Les députés israéliens s'apprêtent à voter une loi de dissolution et à fixer le prochain scrutin au lundi 2 mars 2020, car normalement, on vote le mardi. Mais au mois de mars, il y avait embouteillage de fêtes religieuses ou civiles les mardis, donc on devrait voter le lundi. Cette situation de blocage est inédite en Israël. Depuis 3 mois, les protagonistes sont tous restés fermes. La campagne pourrait commencer dès demain. Benjamin Netanyahou se rend dans une école religieuse orthodoxe et nationaliste violemment anti-arabe et violemment anti-homosexuel. Le ton est donné du côté de Netanyahou, mais en attendant, il reste encore Premier ministre jusqu'au printemps prochain, avec toutefois, Aurélie, une primaire dans son parti qui devrait être organisée le 26 décembre.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Les Britanniques votent demain des élections législatives anticipées sur lesquelles Boris Johnson compte beaucoup. Le Premier ministre conservateur, en avance dans les sondages, espère avoir la majorité au Parlement et faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne à la fin du mois de janvier. Mais les Britanniques anti-Brexit se mobilisent, notamment en Écosse, et les indépendantistes écossais pourraient faire un score historique. Le reportage d'Antoine Gignot dans la circonscription de l'Est du Renfrewshire, en grande banlieue de Glasgow.
19h30, moins 2 degrés au thermomètre, lampe de poche à la main, c'est le dernier tour de pâté de maison pour les militants indépendantistes.
Salut, je m'appelle Dave, je fais partie du SNP et comme il y a une élection qui arrive, on fait du porte-à-porte pour trouver des électeurs.
Moi, je suis plutôt pour les travaillistes, mais je sais qu'ils n'ont aucune chance. Et quand on voit le cafouillage du gouvernement actuel, moi, au fond, je n'ai plus aucune confiance en ce gouvernement. Et du coup, je vais voter stratégiquement pour ne pas laisser les conservateurs revenir au pouvoir.
Ce discours, c'est celui de la majorité des habitants. Ici, ils ont voté en 2016 à 74% contre le Brexit, alors Kirsten Oswald, la candidate indépendantiste, leur promet cette année de bloquer la sortie de l'Union européenne.
Si vous votez pour le SNP, vous votez pour échapper au Brexit. C'est très clair pour les gens d'ici. Et c'est une position très confortable pour moi d'être politiquement étiqueté très pro-Europe. Si on nous entraîne hors de l'Union européenne contre notre gré, je ne pense pas que ce sera bon pour qui que ce soit. Et ce sera un vrai défi économiquement.
En face, le candidat conservateur a lui aussi voté contre le Brexit en 2016. Il a depuis changé d'avis et explique qu'il faut se ranger derrière Boris Johnson et son gouvernement. Il accuse les indépendantistes d'instrumentaliser le Brexit pour obtenir l'éclatement du Royaume-Uni.
Ici, avec ce qui se passe à Édimbourg, on sait déjà ce que c'est d'avoir un gouvernement local indépendantiste qui se concentre uniquement sur l'organisation d'un référendum pour l'indépendance. Résultat, l'hôpital pour enfants qui devait ouvrir il y a 7 ans n'est toujours pas là et il y a de gros problèmes en matière d'éducation.
Dans le local, l'équipe de campagne a moins de 30 ans en moyenne. Les conservateurs ciblent avant tout les jeunes Écossais. Les 18-25 ans se sont cette année massivement inscrits sur les listes électorales.
Antoine Gignot à Londres. Alors qu'à Madrid, la COP25 risque d'accoucher d'une souris faute d'engagement fort des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, la nouvelle présidente de la Commission européenne dévoile son pacte vert pour l'Europe. Un vaste programme de mesures pour lutter contre le changement climatique en transformant radicalement nos modes de production et de consommation tout en créant des emplois. Ursula von der Leyen a dévoilé ces mesures devant les eurodéputés réunis en session extraordinaire à Bruxelles où vous étiez Angélique Bouin.
Elle avait promis d'aller vite et d'associer le Parlement, geste très politique. C'est devant les eurodéputés que la présidente a détaillé son programme. 50 mesures d'ici 2050 pour faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone.
Ce sont les peuples d'Europe qui nous ont appelés à une action décisive contre le changement climatique. Les Européens ont fait entendre leur voix dans les rues et dans les urnes. C'est pour eux que nous présentons un pacte vert pour l'Europe aussi ambitieux.
Investissement massif dans les technologies vertes pour changer la façon dont on consomme et dont on produit. Nouvelles normes dans de nombreux secteurs, dont celui de l'automobile. Soutien financier pour la rénovation des bâtiments. Plus d'emballages non recyclables d'ici 10 ans et des produits réparables plutôt que jetables. Le catalogue est très vaste. Tout cela aura un coût, mais quel sera le coût de l'inaction, a menacé Ursula von der Leyen en confirmant son souhait de mobiliser 100 milliards d'euros sur 7 ans pour aider les pays européens les plus dépendants du charbon.
Et c'est Greta Thunberg qui est nommée personnalité de l'année 2019 par Time Magazine. Une sorte de consécration médiatique pour la jeune militante écologiste qui aura 17 ans en janvier et qui réclame inlassablement aux gouvernants du monde entier des mesures urgentes de lutte contre le réchauffement climatique. Véronique Reberot.
Il y a 18 mois, Greta Thunberg, c'était une écolière de 15 ans qui était toute seule à Stockholm à faire un sitting devant le Parlement suédois pour souligner l'urgence à agir contre le réchauffement climatique. 18 mois plus tard, c'est sous le crépitement des flashs que la même Greta, 16 ans désormais, bientôt 17, est arrivée il y a quelques jours à la COP25 à Madrid, à peine descendue du catamaran qui la ramenait d'Amérique du Sud, car Greta Thunberg est une star planétaire qui ne prend pas l'avion. Rien n'a changé chez la jeune fille, même détermination, même look, même tresse dans les cheveux et regard intense. La jeune militante enchaîne les discours chocs au fil de ses rencontres avec le pape François, Barack Obama, à la tribune des Nations Unies, devant les décideurs du monde rencontrés à la COP24 ou à la COP25, en ce moment, celle qui a entraîné dans son sillage des millions de jeunes à manifester les vendredis pour le climat, souhaite que les dirigeants de la planète paniquent face à la mobilisation des jeunes, condition à ses yeux pour espérer les voir un jour agir vraiment pour limiter le réchauffement climatique. Revers de la médaille, d'inévitables critiques, virulentes à son égard, trop jeune, trop autiste, trop manipulé, trop alarmiste, trop n'apportant pas de solution. Critique étonnante à l'encontre d'une militante de 16 ans qui martèle à longueur de discours qu'elle ne fait que relayer relayer les réalités scientifiques et inquiétantes du réchauffement climatique.
Véronique Rebérotte, l'armée birmane a peut-être fait un usage disproportionné de la force, mais sans intention génocidaire, assure Aung San Suu Kyi. La chef du gouvernement birman s'est présentée devant la Cour internationale de justice pour répondre aux accusations portées contre la Birmanie pour les massacres et persécutions contre la minorité musulmane Rohingya. Aung San Suu Kyi dénonce des allégations trompeuses et incomplètes. Demain jeudi, une nouvelle perturbation recouvrira l'ouest de la France avec de la pluie et du vent. En fin de journée, les giboulées deviendront orageuses sur la pointe bretonne. Du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté aux Alpes du Nord, des averses en matinée, des éclaircies l'après-midi. Dans la région PACA, la journée sera bien ensoleillée. Demain matin, il fera entre 3 et 8 degrés de la Bretagne au sud-ouest, comme sur le pourtour méditerranéen, 0 à 3 sur le reste de l'Hexagone. L'après-midi, 4 à 13 degrés du nord-est au sud, jusqu'à 15 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.